Oui, dans le blanc des yeux. Ben, on va regarder ça avec le blanc des yeux, puis la couleur des yeux, puis l'iris des yeux. Je vous parle donc d'une pièce de théâtre qui va être présentée à la Marjolaine cette saison, cet été. Alors, je vais reprendre les mots du propriétaire et directeur artistique du théâtre La Marjolaine. Le théâtre d'été revient aux sources. Le public plongera dans un univers musical historiquement décoiffant avec la proposition originale et 100% québécoise, Newton et les corps célestes. Alors, pour en discuter, on reçoit la personne qui a écrit, qui fait la mise en scène, si je ne me trompe pas. En fait, la personne qui fait à peu près tout là-dedans, il s'appelle Stéphane Brulotte. Bonjour,
Oui,
bienvenue au
mais
quotidien.
bonjour, bonjour. Je fais pas la mise en scène, par contre. C'est Sylvain Scott, qui fait la mise en scène.
Ah,
Moi, je l'ai
OK.
seulement écrit.
Bon, c'est parce que
C'est
des
quand
fois,
même.
quand on lit nos notes de recherche, j'avais bien vu que vous étiez metteur en scène, mais oui, pas de cette pièce-là, mais c'est pas grave. Vous faites de la mise en scène en général aussi,
Oui,
alors.
j'en fais à l'occasion, oui,
Alors,
c'est vrai.
dans vos pièces, vous n'hésitez pas à explorer là, différents angles dans les grands personnages ou moments historiques. On peut penser à François d'Assise, Ernest Hemingway, Napoléon Bonaparte, le printemps arabe. Cet été, vous vous approchez donc d'Isaac Newton. Comment vous décririez cette histoire-là, en fait, votre relation avec l'histoire?
C'est l'histoire de la pièce, c'est en fait c'est l'histoire de Newton qui a découvert la théorie de la gravité
Ouais.
et il était un peu tout seul, reclus dans son université. Et c'est Edmond Halley, qui est le fameux scientifique de la comète de Halley, là,
Oui.
qui lui, il cherche la clé de ça. Mais il ne trouve pas la clé de la gravité, de la théorie de la gravité. Newton, là, lui, il est à l'université. Et là, il va le voir. Il dit, il faut absolument que tu publies ça. Le problème, c'est que Newton il était brouillé avec le président de la Royal Society, qui était la grande société qui publiait tous les livres sur le scientifique de l'époque. Et le président est un peu jaloux, Newton. C'est une espèce de magouilleur, une espèce
Comme
de
il y en
gars
a
qui n'est pas
partout dans notre
très.
monde, malheureusement.
Ben oui,
À
puis
toutes les époques, oui.
c'est comme si Edmond Halley a vu le génie de la théorie et là, avec sa femme, il entreprend toute une série des stratégies pour essayer que le livre se fasse publier, même s'ils sont chicanés l'un et l'autre. Donc, il cache à Newton que le livre serait publié par la Royal Society et il cache à Hooke que cette théorie-là, en fait, allait faire croire à Hooke que c'est lui qui a trouvé la théorie. Fait que c'est un peu toutes ces espèces de quiproquos, de chassés-croisés entre des personnages qui se font la femme de. Il y a aussi la femme de Halley, Mary Halley, qui est là, que moi j'ai imaginé qui se mêlait un peu à cet imbroglio-là, qui est là puis qui fait à croire qu'elle est une grande duchesse auprès de. Donc c'est une comédie, c'est très léger, c'est très dynamique aussi, il se passe un paquet de choses, il y a des revirements. Newton, au lieu de se faire que ce soit la pomme qui lui tombe sur la tête, c'est un chaudron qui, en tout cas, il tombe. C'est vraiment, c'est une comédie, tu sais,
Alors, juste,
mais
mais
qui
quand même, c'est...
aborde
Oui, vas-y.
une comédie musicale, mais qui aborde le personnage d'Isaac Newton, qui était un grand génie. On en parle beaucoup dans la pièce de Newton. Et Newton, c'est Einstein, mais fois quatre,
Ah.
parce qu'il a inventé quatre grandes théories. C'est vraiment un cerveau incroyable. T'sais. Fait qu'on a, c'est, y a, dans les thèmes avec lesquels on jongle dans la pièce, il y a cette espèce de génie-là qui nous semble inaccessible, puis là, ils l'ont sous les yeux, mais c'est un être asocial complètement. Il n'est pas capable de parler à personne. Il est très bougon, il est très étrange. Il est obsédé par la fin du monde. Il cherche quelle date elle va arriver dans la Bible. C'est vraiment un drôle de zigoto.
Ouais.
Mais c'est un grand, grand, grand génie.
Ben, un peu comme beaucoup de cette espèce d'archétype du scientifique fou, c'est un peu ça, je
Oui,
pense qu'on
oui.
voit.
Oui.
Stéphane, vous quand même vous surmontez un défi là, qui est pas seulement de rendre la science amusante, mais aussi de donner la place aux femmes. On l'a mentionné un petit peu tout à l'heure avec le personnage, à travers donc d'une comédie musicale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu là, sur ce processus créatif qui vous a mené à cette œuvre?
Ben, ça a été plusieurs années. En fait, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai écrit beaucoup de pièces, comme tu as parlé, j'ai écrit beaucoup de pièces historiques. Une pièce historique, c'est très long à écrire parce que faut vraiment te documenter sur le sujet.
Ouais, tout
puis
à fait.
C'est plusieurs livres à lire avant d'écrire une seule réplique de ta pièce. Donc, après trois pièces quand même assez costaudes, sur des personnages assez costauds, comme Napoléon Bonaparte, entre autres, j'étais un peu tanné de ça. Tu sais, je me disais, bon, je pense que je vais écrire ma prochaine, ça va être un couple qui chicane dans un condo. Tu sais. mais non, j'ai pas été capable de faire ça. Et puis j'ai passé plusieurs années, premièrement, à me documenter sur Newton. J'ai écrit la pièce et avec Sylvain Scott, qui a été un peu à l'origine du projet parce que il m'avait demandé d'écrire sur d'autres choses, d'adapter un roman en musical, puis finalement, ça n'a pas marché, on n'a pas eu les droits, mais là, j'ai dit, ben moi, j'en ai des idées, et là, je suis arrivé avec cette idée-là, donc Sylvain Scott, le metteur en scène, il est avec moi depuis les tout débuts, je pense que c'est en 2016 qu'on a commencé à travailler là-dessus, ça me donne une idée du temps que ça prend, mais donc, j'ai travaillé à beaucoup me documenter, puis, à un moment donné, ben là, tu te mets à écrire, mais au fil de l'écriture, c'est ce qui se passe avec une pièce historique, c'est qu'au fil de l'écriture et des commentaires aussi de Sylvain, tu retournes écrire. Fait que, tu retournes faire ta recherche. Fait que tu approfondis ta recherche encore un peu plus. L'idée, c'est de devenir un spécialiste de ton sujet sans trop que ça paraisse. T'sais. Il faut pas que non plus qu'il y a juste toi qui te comprenne en écrivant. Là. Fait que c'est pour ça que d'avoir Sylvain, ses commentaires, tout ça, ça a été très précieux et il m'a permis souvent d'aligner un peu mieux l'écriture, d'orienter tout ça pour que ça donne ce que ça a donné aujourd'hui. En plus, pour moi, il y avait aussi l'écriture de chansons. C'était un nouveau. J'avais écrit des pièces de théâtre, mais j'avais pas écrit des chansons. Et là, ça, c'est un travail quand même assez considérable parce que chaque chanson est comme une petite pièce de théâtre en soi. Donc, non, c'était très formateur. Puis même si je me disais, oh, je ne veux plus écrire sur des personnages historiques, j'ai eu un plaisir fou à travailler sur Newton parce qu'il est très, très inspirant.
Parlons de la musique. Elle est inspirée du British Invasion. Là, de quel
oui.
type de musique là, parle-t-on ici?
Ben, il y a toutes sortes d'emprunts à cette époque-là, que ce soit Pink Floyd ou autre, mais ça reste très, très subtil, tellement bien manié par Yves Morin. La musique est extraordinaire. Vraiment, j'ai été très, très ému, très, j'arrive pas à dire que c'est vraiment beau de voir ça. T'écris ça, tu t'imagines quelque chose, tu sais pas ce que ça va donner musicalement, puis là, t'as quelqu'un qui arrive, comme Yves Morin, qui est un pro, là, vraiment, qui il a tout saisi l'essence de l'affaire, il a tout, puis, il était tellement inspiré. À un moment donné, on parlait, moi puis Sylvain, on parlait de la quantité de chansons, de l'équilibre entre le théâtre, la musique, tout ça. Puis là, Sylvain voulait, il disait, ouais, il y en a un peu trop. Puis là, il disait, on faudrait peut-être en couper une ou deux. On n'a jamais réussi parce que il disait, non, coupez pas celle-là, ça va être très bon. On va faire un numéro un peu du néo traditionnel irlandais. Là, je vais faire ça. Je vais faire une berceuse avec telle. Là, on n'a pas coupé. Puis on a bien fait parce que c'est comme si chaque pièce musicale, chaque chanson est un univers en soi au point de vue musical. Yves arrive à changer le mood tellement habilement. C'est tellement profond en même temps. Il y a une chanson qui, moi, m'émeut aux larmes à chaque fois que je l'entends. Là, ça s'appelle Poussière. Où Newton parle qu'on va tous retourner poussière. Il est dans un moment de découragement, puis Mary Alley, elle lui remonte le moral un peu dans cette chanson-là. Newton prend toute la mesure de notre finitude là, en tant qu'être humain dans cette chanson-là, puis elle lui dit « Oui, mais on est peut-être des tout petits, mais on est quand même conscient de cet univers-là. » Elle leur lance. Et la musique qu'Yves a mis là-dessus, moi, ça me chavire, c'est vraiment hallucinant. T'en as des frissons. vraiment, là. Puis évidemment, la voix de tous les interprètes est extraordinaire aussi, là. Fait que c'est je suis ravi, vraiment.
Donc, ce projet, on l'a mentionné tout à l'heure, a commencé en 2016. On devait le présenter l'été dernier. Bon, je pense qu'on va encore en parler de ta maudite COVID-là qui a fait des retards un peu partout. Mais là, c'est vraiment là cette année. Qui participe à cette œuvre, à part vous, évidemment?
Attendez un peu.
Ai pris un peu de cours, mais oui, je vais vous aider un petit peu parce que moi j'ai la liste ici. On peut parler donc de Yves Morin, donc qui a fait les arrangements musicaux.
Oui, Yves Morin, c'est ça. Il y a Yves Morin, il y a Jean Maheu, il y a Jean-François
Poulin, oui, Marie-Ève Pelletier.
Oui. Marie-Ève Pelletier.
Hélène Durocher et Dominique Saint-Laurent. Donc, ça, ce sont les comédiens.
Et Newton, qui est joué aussi par Frédéric de Sagé, qui est extraordinaire dans vraiment, il fait un très beau personnage à la fois fou, touchant, fragile, mais en même temps épeurant. En tout cas, non, c'est très, vrai, très, très bien mené par toute la troupe, vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup d'inspiration aussi.
Puis évidemment, la mise en scène, scénographie, qu'on l'a mentionné tantôt, de Sylvain Scott.
Oui.
Voilà. Oui. Donc, cette comédie musicale est assez accessible à tous les publics que j'ai entendu.
Oui, c'est étonnant, mais mes enfants sont venus. Bon, sont quand même peut-être, mon plus jeune a 13 ans. Et il a adoré. Puis je pense que même on pourrait descendre plus jeune que ça. Ça pourrait aller peut-être jusqu'à 8-9 ans. Je sais pas. Moi, présentement, je passe pas l'été au théâtre. Je vois pas, j'ai pas vu. Mais je pense que c'est pas si compliqué à comprendre. Puis il y a un côté un peu clownesque par moment dans certaines scènes. Avec ce personnage-là de Newton, qui est un peu comme le Doc Brown de Retour vers le futur, là, qui est un peu l'espèce de professeur fou. Fait que ça plaît aux enfants, ce genre de personnage-là, d'énergie-là, d'époque-là aussi. Je suis convaincu que oui, de tous âges, on peut dire.
Oui, et puis ce samedi, il y a une représentation qu'on appelle avec théâtro-description. C'est pour les personnes malvoyantes. Là. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça exactement?
Je crois qu'il y a quelqu'un qui décrit la pièce. Je sais pas, moi, je suis pas
expert là-dedans.
Spécialiste de ça, ouais. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui décrit la pièce. On s'apprend des écouteurs.
Oui.
Et il y a quelqu'un qui est en coulisses, qu'on voit pas, qui est pas sur scène, qui décrit dans un micro, puis c'est diffusé. Puis là, tu syntonises ton téléphone avec tes écouteurs, je pense, sur une station quelconque. Et là, la personne décrit les gestes des acteurs, les actions sur scène.
D'accord. Donc, ça peut être, pour les personnes malvoyantes, donc ça, c'est vraiment un atout, là. C'est un peu comme lorsqu'on regarde la télévision avec la vidéo description.
C'est ça, c'est exactement ça.
Alors, je vais rappeler que Newton et les corps célestes, c'est présenté là, jusqu'au 19 août au Théâtre La Marjolaine, 55 du chemin du théâtre à Eastman, au Québec. Sorti 106 là, sur l'autoroute 10. Et juste avant de terminer, donc il y a encore de la place, j'imagine, pour des billets et tout ça, pour ceux qui veulent y aller. Et on peut faire des réservations en ligne pour ceux qui s'intéressent. Oui. Donc, j'essaie de voir le... Oui, c'est ça. Alors, c'est Théâtre Marjolaine. C'est HTTPS Marjolaine en minuscule .tuxedobillet.com. Mon Dieu, je vais le redire, là. Marjolaine.
Écoutez, c'est pas compliqué. Si les gens vont chercher sur Google.
Sur Google, Marjolaine.
Théâtre La Marjolaine.
Ils vont trouver
c'est
ça.
C'est à peu près certain c'est certain qu'ils vont tomber là-dessus.
Tout à fait. Oui, parce que donner des adresses comme ça en ligne, surtout qu'on est une émission de radio qui s'adresse beaucoup aux personnes en situation de handicap, c'est pas toujours évident pour les gens de prendre ça en ligne. Allez donc faire un bon Google, ça sert à ça, même s'ils nous coupent nos informations canadiennes. Bon, on parle pas là-dessus.
Ouais.
Stéphane, il y a une autre chose dont je voulais vous parler. Vous venez de publier un roman, Le vol de l'Urubu.
Oui, ben oui. C'était ça aussi, ça a été toute une aventure, un travail de longue haleine aussi. Si les gens ça les intéresse, c'est l'histoire d'un gars qui revient chez lui. Il revient de faire son jogging dans le bois et il est en sang. Il sait pas ce qui s'est passé. Il y a comme un blackout. Et plus au fil, il y a comme trois parties au roman, et au fil de la première partie, le gars, il découvre qu'il a rencontré un chien dans le bois, et le maître du chien, un peu pas longtemps après aussi, qu'il suivait le chien d'un peu loin, mais quand même, et là, il se rend compte que les choses ont déraillé, et qu'il y a eu une certaine violence, mais il sait pas quoi. On finit par découvrir qu'il y a eu une grosse altercation entre le chien, lui, et le maître. Et lui, ce gars-là, il veut cacher à sa femme et ses enfants ce qui s'est passé. Parce que, premièrement, il ne sait même pas ce qui s'est passé, mais il sent que c'est quelque chose d'horrible. Dans la deuxième partie, on apprend à connaître ce personnage-là, qui est le vieux monsieur qui était avec son chien. Fait que c'est la deuxième partie. Puis lui, c'est un ancien motard, si on veut. C'est une espèce de... Il a fait de la prison, un gars ultra violent qui vient d'un monde très violent aussi. Et puis, il a été un peu sauvé par un espèce de quelqu'un qui faisait de la thérapie par les arts. C'était nouveau, mettons, lui, on se dit que c'est dans les années 70. Et il arrive et il lui propose de faire de la peinture. Et là, il est un peu sauvé par la peinture. Donc, la dernière portion de sa vie est plus calme et il pense qu'il s'est calmé, tout ça. Et la troisième partie, c'est parce que je ne décris pas ce qui s'est passé. Je tiens mon lecteur en haleine quand même un peu. Et puis, dans la dernière partie, on apprend vraiment ce qui s'est passé dans le bois parce qu'on ne le sait pas trop.
On ne va pas le divulgâcher, mais donc c'est en librairie, donc le vol de Le Rubu. Stéphane Brulotte, merci beaucoup d'avoir été à l'émission au quotidien.
Merci.
OK, à la prochaine.
Bye.